carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde. 34e épisode, les derniers mois du poète Federico Garcia Lorca en Argentine et en Uruguay. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre au Rio de la Plata alors que nous sommes en compagnie de Federico Garcia Lorca. Nous sommes en 1933 et lors de ce deuxième voyage que le poète fait en Amérique, il a d'abord débarqué au Brésil où le président Getúlio Vargas est à la tête d'un gouvernement provisoire à la suite de son coup d'état de 1930. Vargas, pour les Argentins, c'est une sorte de mélange de leur ancien président radical Irigoyen et de leur président actuel Agustín Pedro Justo à la tête d'une organisation politique qui mêle le socialisme, l'autoritarisme et la dictature. Federico Garcia Lorca, comme 3 ans auparavant à La Havane, vit dans le Rio de la Plata une des périodes les plus belles de sa vie. Il est enivré par le succès et l'accueil chaleureux des Argentins. Le 21 novembre 1933, c'est, depuis la création en juillet, la 100e représentation au Théâtre Avenida de Noces de sang. Une grande réception est organisée à laquelle assistent le président de la République, Pedro Justo, et le tout Buenos Aires artistique et intellectuel. À la fin de la soirée, Lorca monte sur scène et lit le Romance de la Luna Luna, la Ballade des Trois Fleuves, La Mariée infidèle et le si populaire poème du gitan Antonio El Camborio en route pour la corrida de Séville. C'est l'ami de Lorca, la comédienne Margarita Xirgu, qui le récite ici.
À la mitad del camino portó limones redondos.
Au milieu du chemin, il a coupé des citrons ronds. Il marchait en les jetant à l'eau, qui prenait la couleur de l'or. Au milieu du chemin, sous les branches d'un orme, la garde civile l'a emmené coude à coude. Le jour s'en va lentement, le soir accroché à l'épaule, en déployant une ample véronique sur la mer et les ruisseaux. Les olives attendent la nuit de Capricorne et une courte brise équestre chevauche les collines couleur de plomb.
Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en el caballo y un beso te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.
Ojos Verdes, chanté par Miguel de Molina, des yeux verts comme la menthe, verts comme le blé et le citron vert. Miguel de Molina avait rencontré Lorca à Barcelone et dans un café, chacun était allé de son poème. « Allez Federico, dis-le, c'est ma chanson qui a inspiré ton poème, Verde, que te quiero verde, vert, je te veux vert », lui disait Molina en riant. Après la guerre civile, Miguel de Molina, persécuté par les milices franquistes, trouvera refuge en Argentine. Dans le vestibule du théâtre Avenida de Buenos Aires, après la centième de Noces de sang, on commente abondamment le résultat des élections espagnoles et la victoire d'une droite extrême dont on a tout à craindre. Au pays, le théâtre itinérant de la Barraca, fondé par Lorca, voit ses subventions en péril. On attend impatiemment le retour du poète, mais pour l'instant, celui-ci ne songe qu'à rester en Argentine. Le 1er décembre 1933, l'actrice Lola Membrives, à la tête de sa compagnie, crée la Zapatera Prodigiosa, la savetière prodigieuse. Lorca a supervisé la mise en scène et choisi les musiques. Gros succès, 50 représentations. Lors de la soirée du 15 décembre, le poète a même ajouté un final en musique et en danse, avec des chansons populaires mises en scène dans les décors et les costumes de Fontanals, dont les célèbres de los cuatro muleros, les quatre muletiers, et los peregrinitos, les pèlerins en marche vers Rome, un ancien romancé espagnol.
Mamita, ¿por qué son primas, niña bonita? ¿Por qué son primas, niña? Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Sombrerito de hule lleva el mozuelo. Y la pelegrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Al pasar por el puente de la Victoria, al pasar por el puente de la Victoria, trompezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a Palacio, suben arriba, han llegado a Palacio, suben arriba, y en la sala del papá, mamita, los examinan, niña bonita, los examinan, niña. Le ha preguntado el papa cómo se llama. Le ha preguntado el papa cómo se llama. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Le ha preguntado el papa qué queda bien. Le ha preguntado el papa qué queda bien. Ella dice que 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Le ha preguntado el papa de dónde era. Le ha preguntado el papa de dónde era. Ella dice de Cabra, mamita, y el de Antequera, niña bonita, y el de Antequera, niña. Le ha preguntado el papa que si ha pecado. Le ha preguntado el papa que si ha pecado. Él le dice que un beso, mamita, que le había dado, niña bonita, que le había dado, niña. Y la peregrinita, qué vergonzosa. Y la peregrinita, qué vergonzosa. Se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha respondido el papá desde su cuarto. Y ha respondido el papá desde su cuarto. Quien fuera peregrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se han casado, niña bonita, ya se han casado, niña.
Lorca s'était fait une réputation de musicien en jouant du piano et en chantant dans les théâtres de Buenos Aires, mais aussi de superbe dessinateur, car il a beaucoup dessiné lors de son séjour. D'ailleurs, en 1933, l'écrivain mexicain Salvador Novo, arrivé depuis peu à Buenos Aires, lui demande aussitôt d'illustrer la prochaine édition de son recueil de poèmes. Federico se met à l'ouvrage avec enthousiasme et lui dit combien le Mexique le fascine. Pour l'instant, il est devenu si célèbre en Amérique du Sud qu'il reçoit des invitations de partout pour donner des conférences, notamment au Chili. Mais le seul voyage que réalise Federico Garcia Lorca durant son séjour argentin a lieu le 22 décembre à Rosario, à 280 km de la capitale, au bord du fleuve Paraná, où il donne sa conférence sur le duende. À son retour à Buenos Aires, il est de nouveau comblé. Le succès de la Zapatera Prodigiosa, la savetière prodigieuse, est tel que Lola Membrives aimerait monter une autre de ses pièces. Mais laquelle ? Yerma n'est pas terminée, et de plus il l'a promise à Margarita Xirgu en Espagne. Il choisit donc Mariana Pineda. C'est une de ses premières pièces et les plus historiques. Elle n'a guère de succès, car ce genre de théâtre, en plus, n'a pas la faveur du public argentin. De toute façon, la saison de Lola Membrives au Théâtre Avenida finit le 4 février. L'actrice est épuisée, elle tombe malade, elle doit se reposer. Quant à Lorca, il reporte encore son retour en Espagne. Et dans le calme retrouvé, il espère pouvoir achever Yerma. C'est sans doute à ce moment-là qu'il part à Tigré pour se reposer au bord du delta du Rio de la Plata. Un nocturne pour piano que le compositeur argentin Carlos López Buchardo a composé en 1934, interprété ici par Lía Chimalia Espinosa. Les premiers mois de cette année-là, Federico García Lorca fait la connaissance d'un des grands du tango argentin, l'écrivain et compositeur Enrique Santos Discepolo, qui a à peu près son âge. C'est la chanteuse Tania, son épouse, qui raconte. Lorca a rencontré Discepolo à Buenos Aires et il est même venu dîner chez nous dans l'appartement de la rue Cangallo. Federico et Enrique sont devenus très amis. Ils ont flâné plus d'une fois dans les rues de la ville et se sont parlé pendant des heures. Federico s'intéressait au tango et il voulait des informations, des paroles de chansons, des titres, des anecdotes. Lui-même expliquait comment il avait cherché à approfondir le répertoire du cancionero populaire espagnol pour en comprendre l'essence. Il se passionnait aussi pour les musiques d'autres pays, et spécialement celles d'Argentine. Ils se sont revus plus tard à Madrid, lors d'une tournée que nous avons faite, Enrique et moi. Nous avons rencontré là-bas beaucoup de personnalités, mais aucune ne nous a touché autant que Federico. Enrique a eu le privilège de l'entendre lui réciter le Llanto pour Ignacio Sánchez Mejías, bien avant sa publication. C'était dans un café de la Gran Via, face à la place du Callao. De même, Enrique lui a donné plusieurs de ses textes de tango. Cette année-là, on parlait là-bas d'une prochaine guerre civile. Enrique avait senti que sa chère Espagne était au bord du gouffre. C'est sur le paquebot qui nous ramenait en Argentine que nous avons appris l'assassinat de Federico par les fascistes. En 1934, lors de leur première rencontre, Enrique Santos Discepolo écrivait la musique du film « Alma de bandoneon », l'âme du bandoneon, et son thème, si nostalgique, si triste même, est un de ses grands tangos.
Mariposa antes de
Le chanteur Roberto Maida, l'orchestre de Francisco Canaro dans cette âme du bandoneon de Enrique Santos Discepolo. Quant à Lorca, eh bien, c'est le départ en Uruguay. Il arrive à Montevideo le 30 janvier 1934. L'ambassadeur d'Espagne l'attend sur le quai, accompagné de plusieurs écrivains, dont le jeune Uruguayen Enrique Amorim, que Lorca avait déjà rencontré à Buenos Aires. Assiégé par les journalistes, les écrivains, les artistes et le public, il n'arrive pas à écrire tranquillement Irma. De plus, il débarque en plein carnaval, le si populaire, le si exubérant carnaval de Montevideo. Il commence par donner une conférence au théâtre du 18 juillet, la même où le mois précédent, Lola Membrives avait joué Noces de sang avec un succès retentissant. Lola qui prend des vacances avec son mari en Uruguay, au bord de l'océan, et qui fait tout, et Dieu sait si elle est autoritaire, pour enfermer Lorca dans sa chambre de l'hôtel Carrasco afin qu'il termine Irma. mais en vain. Lorca ne résiste pas au plaisir de vivre la fête permanente de Montevideo, la Bullanga Montevideana. Il se déguise, il confectionne des masques pour les enfants de l'ambassadeur et il défile même dans les rues en bleu de travail, la tenue que portent en tournée les étudiants de la compagnie théâtrale de la Barraca. Et tout le monde le reconnaît et l'applaudit. Candombe du carnaval de Montevideo, interprété par Eduardo de la Luz et son ensemble. En Uruguay, Federico García Lorca voit beaucoup Enrique Amorim. Né au sein d'une ancienne famille très fortunée d'Uruguay, Amorim a des liens de parenté avec Jorge Luis Borges. Il vit à Salto, au nord-ouest du pays. La famille passe l'été à Carrasco, à l'est de la capitale, et c'est sur cette belle plage qu'il rencontre un jour, grâce à Borges, sa future épouse Esther. Durant le séjour de Lorca, le couple Amorim a réservé un appartement au même hôtel que le poète, l'hôtel Carrasco, justement, à deux pas de l'océan. Esther et Enrique s'aiment profondément. Esther comprend vite la fascination qu'exerce Lorca sur son époux et accepte depuis toujours ses préférences sexuelles. Elle a souvent raconté par la suite la liaison entre les deux écrivains et la sympathie qu'elle a eue immédiatement pour Federico. À Montevideo, Esther et Enrique sont assidus aux conférences du poète. La première sur le Duende a lieu le 6 février 1934 devant près de 1000 personnes. Lors de la seconde, trois jours après, Lorca interprète les chants populaires espagnols en s'accompagnant lui-même et ce sont plus de 1300 auditeurs qui se pressent au théâtre. Tout comme le 14 février, où il raconte son séjour à New York. Enrique Amorim lui fait alors découvrir l'Uruguay et Lorca est très séduit par le pays, ses paysages et surtout par ses musiques.
Milonga del arrabal, vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que en una noche de canchengue lo engrupiste y al quebrar tu cuerpo retobado de percal, te llevó para el bulín que arregló el compás y así te llamó milonga y cuando aprendiste quebrado de meta y ponga, te llevó para el cafetín, era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que en tus notas se inspiró, te hizo un chamullo de fostro con acordes a derroche y en la penumbra de una noche del arrabal te piantó. Milonga del arrabal que al pobre gotán lo abandonaste de impique con el berretín de quererle dar un dique con tu gigolo anclando en la diagonal y al ver que lo habías dejado de bronca y dolor se pisó unas cuantas copas, se cachó un vapor y se fue derecho a Europa dejando un cartel sentado, era la más preferida de los barrios orilleros, pero vino un forastero que te llevó pa' tu mal. Y al ver que lleno de gloria volvió el tango con su acento, te entró el arrepentimiento y volviste al arrabal, milonga del arrabal. Vos sos la mujer del tango celoso y triste, la que en una noche de canyengue lo engrupiste al quebrar tu cuerpo retobado de percal. Te llevó para el bulín, te arregló el compás y así te llamó milonga. Y cuando aprendiste el quebrado de meta y ponga, te llevó para el cafetín.
Tu étais la plus belle, mais ce quartier était trop pauvre pour toi. Et tu es parti avec le premier étranger venu. Une milonga uruguayenne de 1934, composée et interprétée par le guitariste et chanteur Alberto Mostra, qui avait alors une vingtaine d'années. Dans la vie agitée de son séjour uruguayen, Lorca parvient à adapter la Dama Boba, la petite niaise, la pièce de Lope de Vega pour la grande actrice argentine Eva Franco. Et il révise son petit retable de Don Cristobal ainsi que Doña Rosita la Soltera, Doña Rosita la célibataire, qui n'avait toujours pas été représentée. Il passe aussi beaucoup de temps avec l'ambassadeur espagnol qui organise réception sur réception. Avant de quitter Montevideo, il demande à ses amis uruguayens de l'accompagner au cimetière de la ville. Il tient à se recueillir sur la tombe du peintre Rafael Pérez Barradas, qu'il avait connu à Madrid au début des années 20. Il était mort de la tuberculose à Montevideo dans une grande pauvreté. Le jour de leur visite, il faisait gris. Lorca avait un visage défait. Ses amis ont compris à quel point ce rite funéraire impressionnait le poète. Et il connaissait son rapport avec la mort. Mais à peine revenu au centre, entouré de tant d'affection, il retrouve aussitôt sa joie de vivre. Le 16 février 1934, au port de la capitale, Lorca prend congé d'Enrique Amorim, totalement bouleversé, et de tous les amis. Buenos Aires l'attend de l'autre côté du Rio de la Plata. Le soir tombe, quand le vapeur quitte Montevideo, il jettera l'ancre en Argentine au petit matin. Adrian Leeper à la tête de l'orchestre de Grande Canarie dans cette cavatine aux accents parfois jazzy, composée en 1933 par Ernesto Halfter, grand ami de Lorca et de Manuel de Falla.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Après le départ de Federico, Enrique Amorim retourne avec Esther dans leur maison de Las Nubes, près de sa ville natale de Salto. Il l'avait fait construire en 1930 dans le style de Le Corbusier au bord du fleuve Uruguay. Et il attend tous les jours un signe d'amour de la part du poète, mais aucune lettre n'arrive de Buenos Aires. À la fin de l'année, il voyage avec Borges dans la région des forêts de Tacuarembó jusqu'à la frontière brésilienne. Tous deux sont alors témoins d'un assassinat dans une taverne. Cet épisode a inspiré plus d'un conte à Borges, dont Tertius, où Amorim apparaît même comme personnage. Pendant ce temps en Argentine, Lorca vit dans un véritable tourbillon. Le 1er mars, Lola Membrives commence sa nouvelle saison au Théâtre Avenida avec le premier acte de La Savetière prodigieuse, l'acte final des Noces de sang et le troisième acte de Mariana Pineda. À la fin d'une représentation, Lorca monte sur scène et lit au public deux extraits de sa future pièce, Yerma, que Lola Membrives créera, assure-t-il, à Buenos Aires. Le 4 mars, Manuel Fontanals transforme le théâtre de la comédie en Corral des Comédias, comme du temps de Lope de Vega à la fin du XVIe siècle. L'œuvre du dramaturge du siècle d'or, La Dama Boba, la petite niaise, est créée le 4 mars avec un succès considérable. L'actrice Eva Franco, très aimée du public de Buenos Aires, remporte un véritable triomphe. La Jota des chansons populaires de Manuel de Falla, arrangée et interprétée par le violoniste Yasha Heifetz avec Isidora Krohn au piano. Heifetz qui s'apprête justement à l'interpréter lors de ses récitals à Buenos Aires et Montevideo peu après le départ de Lorca. Lorca qui remet sans arrêt son retour en Espagne. Le 10 mars, dans une interview au journal Critica, il avoue qu'en réalité, il est un grand timide qui a toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur de sa réputation. Durant l'entretien, Le journaliste comprend vite son profond sentiment tragique de la vie, son obsession de la mort. Le 26 mars 1934, Lorca fait sa dernière apparition sur la scène de l'Avenida. À 1h30 du matin, il a organisé dans le vestibule du théâtre une représentation de marionnettes. Los dos habladores, les deux bavards de Cervantes, avec des figurines d'un peintre argentin et une musique de Manuel de Falla. Puis il y a aussi la première scène des Euménides d'Eschyle, la création du retable de Don Cristobal et de Doña Rosita, dans des décors et costumes de Fontanals. Cela lui rappelait les tréteaux de la Barraca et les spectacles de son enfance dans la maison de Fuente Vaqueros près de Grenade, comme ce jour des rois en février 1923, quand il avait organisé un spectacle de marionnettes pour les enfants du village et pour lequel Falla avait réuni un petit orchestre qu'il avait dirigé. Ernest Ansermet à la tête de l'orchestre de la Suisse romande dans cet extrait du Tricorne de Manuel de Falla. Durant son séjour, Lorca a aussi lié une belle amitié avec le chef d'orchestre et compositeur Juan José Castro et son frère José María, qui allait diriger ce ballet le 28 avril et le 5 mai au Théâtre Colonne. Après le spectacle de marionnettes au Théâtre Avenida, Lorca dit au revoir à l'Argentine sur les ondes de Radio Stentor dans le sous-sol de son hôtel Castellar. Je sais qu'il existe une nostalgie de l'Argentine dont je ne me libérerai jamais et de laquelle je ne veux pas me libérer, car je sais qu'elle sera bonne et féconde pour mon esprit. Puis il demande à ses amis de l'accompagner au port, comme s'il partait seulement se promener à Tigré sur le delta. Mais en arrivant au port, il est bouleversé de voir la foule qui s'est rassemblée pour lui dire au revoir. Dans cette foule, beaucoup de Galiciens à nouveau, comme à son arrivée 6 mois auparavant. Il est très ému et à son retour en Espagne, il écrit un poème qui exprime la profonde morrigne, la profonde nostalgie des émigrés galiciens d'Argentine. Cantigo d'une nous d'attenda, le chant du jeune Ramon entendu dans une boutique du quartier de Sismundi à La Corogne. À Buenos Aires, le vent du nord souffle dans la gaïta, la cornemuse galicienne. Dans la rue Esmeralda, Ramon trimballe des cartons. Il entend soudain la musique de la Munieira galicienne. Il part à sa recherche, au bord du Rio de la Plata. Des saules et des chevaux nus brisaient les vitres de l'eau. Mais Ramon, le triste Ramon du quartier de Sismundi, n'a pas trouvé le gémissement mélancolique de la gaïta. Dans le soir qui tombe, il n'a vu qu'un mur de limon rouge.
Buenos Aires ten unha gaita sobre do río da Prata que atoca o vento do norte ca súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismundi, aló na rúa Esmeralda, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas. Triste Ramón de Sismundi, triste Ramón, 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 triste Ramón. Foise para beira do río da Prata, sauces e cabalos múos creban o vidro das aguas. Non atopou o xemido malencónico da gaita, non viu imenso gaiteiro boca florida de dalias. Triste Ramón de Sismundi, triste Ramón, 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 triste Ramón. Triste Ramón de Sismundi, beira do río da Prata, vi una tarde amortecida, vermello muro de lama. Os aires ten unha gaita sobre do río da Prata, que atoca o vento do norte, ca súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismundi, triste Ramón, 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 triste Ramón.
Le poème galicien Cantigo d'une nous d'attenda de Lorca, mis en musique et interprété par Amancio Prada. Pablo Neruda et le poète galicien Amado Vigiar, qui avait accompagné Lorca au port de Buenos Aires, ouvrent, après son départ, les enveloppes que le poète leur a données. C'est de l'argent, comme pour leur donner un petit coup de pouce. C'est bien là la générosité de Federico. Le 30 mars, le paquebot jette l'ancre à Rio de Janeiro. Alfonso Reyes est là de nouveau. Il lui offre un vase en verre plein de papillons tropicaux qui trônera en bonne place dans son appartement madrilène. Puis commence la longue traversée durant laquelle Lorca se demande avec angoisse ce qu'il attend à son retour en Espagne où la situation politique a changé dramatiquement depuis son départ en octobre. Il débarque à Barcelone le 11 avril 1934 et prend le train de nuit pour Madrid où il retrouve son appartement de la rue d'Alcala. Lorca passe ensuite la Semaine Sainte en famille, à Grenade, où la ville est déchirée depuis les dernières élections. C'est en Andalousie, le mois suivant, qu'il termine enfin Yerma. À Madrid, il retrouve son cher Rafael Rodriguez Rapun et les étudiants de la Barraca, qui reviennent d'une tournée à Ceuta, Tétouan et Tanger. Il répète de nouveau avec lui, convaincu qu'à présent tout va aller pour le mieux. Il revoit aussi les compositeurs Ernesto Halfter et Julián Bautista, chargés des musiques de scène. Bautista avait reçu le prix de la radio en 1932 pour son ouverture pour un opéra grotesque. Bautista, qui comme tant d'autres, devra bientôt prendre le chemin de l'exil. Ce sera en Argentine, où il est mort en 1962. Pour l'heure, la Barraca de Lorca continue vaille que vaille contre les vents et marées fascisants à sillonner toutes les routes d'Espagne. Salvador Brotons à la tête de l'orchestre de Barcelone dans l'ouverture d'un opéra grotesque de Julián Bautista. Le 28 décembre 1934, Yerma est créé à Madrid au prestigieux théâtre espagnol avec Margarita Xirgu dans le rôle titre. La droite extrême s'acharne contre Lorca malgré les réactions enthousiastes du public qui remplit le théâtre. C'est en septembre que la pièce est créée à Barcelone, avec un succès encore plus spectaculaire qu'à Madrid. Puis le 26 janvier 1936, Federico et Margarita donnent un récital de poésie à Bilbao. Elle insiste pour que Lorca l'accompagne en Amérique où elle part en tournée avec sa compagnie. Il lui promet alors de la rejoindre, mais au Mexique. Le 31 janvier, Margarita et ses comédiens embarquent à Santander pour la Havane à Cuba. Elle s'établira en Uruguay et ne reviendra plus. C'est peu après que Lorca reçoit à Madrid la visite inattendue de l'écrivain uruguayen Enrique Amorim, auquel il n'avait guère écrit depuis leur courte liaison à Montevideo. Une photo rappelle cette rencontre inopinée. On voit Lorca et Amorim sur la Gran Via, emmitouflés dans leur manteau. Tous deux ont un visage très sombre. Amorim dira par la suite qu'il avait conseillé à Lorca d'être prudent, car ce jour-là, il était convaincu qu'un milicien de la Falange les suivait. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Lorca est exécuté le 19 août 1936, près de Grenade. La nouvelle de l'assassinat de Lorca au tout début de la guerre civile bouleverse le monde entier. Tout près du lieu supposé du crime, il y a une ancienne fontaine arabe du nom d'Aïn Adamar, la fontaine aux larmes. C'est le titre de cette cantate scénique du compositeur argentin Osvaldo Golijov, créée en 2003 aux États-Unis dans une mise en scène de Peter Sellers. Robert Spano dirigeait ici l'orchestre d'Atlanta, avec Dawn Upshaw, Kelly O'Connor, Jessica Rivera et Jesús Montoya. En Uruguay, Enrique Amorim entreprend bientôt de rendre un hommage exceptionnel à Lorca dans sa ville de Salto. En avril 1952, à son retour de France, où il a résidé, il accorde une interview au journal local. Actuellement, dit-il, la pièce Noce de sang a un énorme succès à Paris. Ce serait formidable que les habitants de Salto se battent pour que soit érigé dans leur ville le premier monument à Lorca. Les autorités l'ont entendu. Elles donnent leur accord. Un mémorial en marbre est construit sur la plus belle colline de la ville, face au fleuve Uruguay. Margarita Xirgu, alors en exil dans le pays, assiste à l'inauguration en décembre 1953 et elle interprète avec des acteurs de sa compagnie uruguayenne les scènes les plus dramatiques de Noces de sang. Dans son compte rendu, la presse est frappée par le fait que dans le public, il y a surtout beaucoup de lavandières et de pêcheurs qui travaillent sur le fleuve. Ils ne connaissaient sans doute pas les poèmes de Lorca, mais le poète aurait beaucoup aimé leur présence. C'est avec Federico García Lorca au piano et son ami l'Argentinita que nous disons au revoir au poète espagnol et que nous nous séparons jusqu'au prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Jean-Michel Bernot qu'on peut écouter et réécouter en podcast.